France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous poursuivons notre route en ouverture de ces carnets. Dans le territoire de Belfort, nous consacrons cette première page à une école démocratique ouverte à la rentrée dernière. Le sujet est souvent âprement débattu autour des tarifs de ces écoles alternatives hors contrat, des contenus qui sont bien différents des standards éducatifs et des règles jugées par certains trop souples. Autant de questions que nous allons poser à Stéphane Dalzon, directeur de cette école démocratique de Belfort. Nous serons ensuite dans le Maine-et-Loire, où est née l'association des locaux moteur qui encourage les familles à utiliser les dispositifs publics. Et vous allez être certainement étonné par le nombre de personnes qui ne perçoivent pas, par exemple, les minima sociaux auxquels elles ont droit.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Stéphane Dalzon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous dirigez, vous enseignez à l'école démocratique de Belfort installée à Sévenan. Alors, école démocratique, donc je vais anticiper sur les critiques qui viennent régulièrement sur ces sujets de la part des auditeurs. D'abord, en rappelant une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles privées qui se montent, comme les écoles Montessori ou les écoles démocratiques. Mais dès qu'on dit école privée hors contrat, on dit que ce sont des écoles qui sont plutôt élitistes ou réservées à un public ayant les moyens d'assumer les frais de scolarisation.
Eh bien, sur la question financière, c'est vrai que c'est toujours délicat. Alors, pour l'instant, je dirais qu'en ce qui nous concerne, nous, bien, on a essayé de trouver un seuil limite à ne pas dépasser, puisqu'on est une nouvelle école. On a ouvert en septembre. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour être très concret, actuellement, chez nous, le mois coûte 300 euros. Et nous envisageons par la suite d'avoir des tarifs qui seraient basés sur les revenus.
Ça interroge beaucoup de monde hein, quand même le fonctionnement parce que vous avez combien ? 14 enfants ?
Eh bien là, en comptant un peu ceux qui sont encore en intégration, on est à 16. On a posé dans les statuts de 6 ans à 16 ans. Donc ça, c'est encore une fois une indication provisoire. Mais actuellement, là, pour être concret sur l'effectif, ça va de 5 ans et demi, donc presque 6. Et le plus grand, il a 16 ans.
Ce sont des classes uniques.
Donc l'organisation, pour l'instant aussi, est basée sur la journée suivante. Les enfants sont accueillis de manière échelonnée entre 8h et 9h25. Et il y a le matin deux ateliers proposés. Donc j'appelle ateliers proposés des ateliers pédagogiques qui font référence soit à des matières en lien avec le socle commun de l'éducation nationale. Donc par exemple, le matin, il peut leur être proposé anglais en premier créneau et en second créneau de la matinée, par exemple, français. L'après-midi, et c'est la même chose, il y a deux créneaux de proposés, enfin plusieurs créneaux, mais en tout cas, ils en ont deux à choisir. C'est par exemple science et le deuxième créneau peut être... créativité, art, voilà. Alors là où je veux en venir, c'est que par rapport à votre question, comme on est organisé pour l'instant sur le principe des ateliers toute la semaine, sur ce principe-là, deux le matin à choisir et deux l'après-midi à choisir, c'est les enfants qui se déplacent dans les différentes salles où sont positionnés les enseignants et ils assistent donc à la séance et effectivement là ils sont mélangés.
Mais les capacités de compréhension et d'assimilation des plus jeunes par rapport aux plus âgés sont différentes. Est-ce que ce n'est pas un handicap ?
Voilà, alors ça c'est un choix aussi d'organisation dans le sens où on fait de la pédagogie, ce qu'on appelle différentielle, c'est-à-dire que dans la même salle, on s'adresse à différents élèves et on ne leur propose pas les mêmes choses, bien évidemment. C'est le principe d'atelier qu'ils choisissent. Donc ils les testent bien évidemment dans la période d'intégration, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils sont intégrés graduellement avec d'abord, ils assistent aux ateliers en fonction de leurs affinités avec la matière. Donc ils peuvent très bien, la première semaine, aller tester un peu les maths telles qu'ils sont enseignées dans l'école, la science, puis le français. Et ensuite, on leur demande de choisir, puisque quand je dis choix, c'est parce que dans la matinée ou l'après-midi, vu qu'il y a déjà trois enseignants principaux et des intervenants qui viennent compléter nos propositions à nous, eh bien, ils ont du choix entre parfois quatre ateliers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en septembre ils ont choisi, ils doivent s'engager pour rester dans leur choix jusqu'aux vacances de Toussaint. juste avant les vacances de Toussaint, on leur demande s'ils ont quelques modifications à apporter au niveau de leur choix. Si par exemple ils disent ben, je veux faire un cours de maths de moins, mais j'aimerais faire un cours de français de plus, etc. etc. On prend en compte la modification et on regarde la cohérence par rapport à l'enseignant, si c'est OK. Et hop, ils sont en vacances et au retour des vacances, ils attaquent le nouveau cycle avec leur choix.
Est-ce que l'on peut, lorsqu'on a suivi plusieurs années d'évolution dans une école démocratique, revenir dans le système éducatif classique facilement?
Tous les témoignages, et à la fois aussi concrets, qu'on peut même trouver aujourd'hui sous forme de vidéos sur YouTube où ils sont interviewés, les élèves disent qu'ils ont une adaptation qui est vraiment facile. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la seconde, c'est que dans la mesure où on est quand même assujetti à deux obligations, même si on est hors contrat, c'est-à-dire la première, c'est de pratiquer de l'évaluation. Oui. Donc les élèves n'ont pas des livrets scolaires classiques, mais ils ont une forme de livret scolaire où on notifie leur progression. À ce moment-là, ben, lorsqu'ils intègrent des établissements, ben, ils ont quand même des éléments à apporter pour montrer un peu où ils en sont de leur niveau de connaissance.
Une dernière chose, Stéphane, il est prévu que l'encadrement se fasse plus durement de la part du gouvernement autour de l'instruction en famille, ça risque d'être au bénéfice des écoles démocratiques comme la vôtre?
Oui, bah de fait, il y a effectivement un effet de cause à effet, là, c'est certain. Bah, déjà, on a été approché par des familles qui font l'instruction en famille oui. dès le départ, puisqu'ils sont venus nous rencontrer. Et ensuite, ils étaient effectivement assez inquiets de l'avenir. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, les familles qui instruisent sont potentiellement des familles qui pourraient intégrer les élèves.
Belfort-école-démocratique.org, l'adresse internet de cette école du Grand Belfort. Merci Stéphane.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Comme nous allons parler dans un instant du recours aux politiques publiques et des avantages ou des services auxquels celles-ci donnent droit, j'anticipe d'une certaine manière, avec l'association qu'est le Centre d'information sur les droits des femmes et familles à Belfort. Siam, notre correspondante, qui est coordinatrice du pôle juridique de ce centre, nous donne des précisions sur les rôles de ces centres, de celui-là, de Belfort, comme de tous ceux qui existent en France, il y en a plusieurs dizaines. Leur première fonction est d'aider à l'autonomie des femmes sur le plan économique, le plan social, familial, professionnel et juridique. Le centre de Belfort aide aussi ces femmes à trouver un emploi ou une formation. Et parmi les initiatives dans lesquelles l'association s'est engagée, il y a le programme Tout Sport. Il s'agit d'encourager la pratique sportive des femmes dans les quartiers prioritaires et dans les territoires ruraux et d'utiliser le sport comme vecteur de confiance en soi, d'autonomie et d'insertion professionnelle. Ce programme part du fait que les freins à la pratique sportive ont souvent une corrélation avec ceux qui ralentissent l'insertion professionnelle. D'autre part, l'engagement dans une activité physique ou sportive aide ces femmes à s'approprier l'espace public. Plusieurs centres expérimentent d'ailleurs ce programme depuis 2016. Il y a le lien avec le centre d'information sur les droits des femmes et familles à Belfort à nos pages d'émission. François Daligo, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez une association dont j'avais dit quelques mots qui s'appelle les Locomoteurs, créée en 2015 pour agir contre la précarité en milieu rural. Vous avez été distingué par des prix, et entre autres l'un des prix de l'innovation rurale en catégorie proximité en mars de cette année. Ce que vous faites, c'est de lutter contre le non-recours aux politiques publiques. Alors, on va expliquer quand même cette formulation du non-recours aux politiques publiques.
Alors oui, c'est assez méconnu effectivement, même si c'est travaillé depuis 2003 et c'est même un enjeu depuis 2003 au niveau national. Le non-recours, c'est le fait que certaines personnes qui pourraient avoir accès à des aides ou des politiques publiques ne vont pas les chercher. C'est assez étonnant, mais ça peut se comprendre. Mais par exemple, pour le RSA, c'est quand même 34% des personnes qui vont pas mobiliser le RSA. 34%, alors que pour le RSA, on dit que ça coûte extrêmement cher. Ces chiffres-là, on peut les retrouver aussi à tout type d'aide proposée. Hein. Donc, sur la CMU complémentaire, c'est quasiment 70% des gens qui ne vont pas mobiliser ceux auxquels ils pourraient avoir droit.
C'est quoi ? C'est l'ignorance, méconnaissance des lois, méconnaissance des politiques publiques ?
Alors, il y a plusieurs bonnes raisons pour ça. Il y a effectivement la méconnaissance des droits auxquels les gens peuvent prétendre. Il y a le fait que les services qui accompagnent ces personnes, souvent en précarité, hein, au milieu modeste, les services qui les accompagnent ne leur donnent pas forcément l'information ou pensent que ça les concerne pas ou eux-mêmes ne connaissent pas d'ailleurs l'aide possible.
Mais ce sont des personnes qui vivent de quoi alors ?
Eh ben, ils vont trouver des alternatives, des réseaux amicaux, d'autres aides, l'aide alimentaire. Enfin voilà, les personnes essaient de se débrouiller, de composer. Elles ont souvent d'ailleurs beaucoup de ressources au sens personnel pour trouver des solutions, mais ça reste parfois compliqué aussi de s'en sortir. Et ces personnes-là qui ne vont pas les mobiliser, ça peut être aussi par principe, parce qu'elles ne veulent pas bénéficier des aides, ou elles sont contre certaines aides, ou il y a de la mésestime de soi. Il y a plein de raisons qui sont étudiées pour essayer de comprendre ces phénomènes complexes, beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine au départ, de la non-information.
On parlait de méconnaissance dans le premier point. On n'est pas informé, peut-être que parfois, dans des espaces un petit peu éloignés des centres de décision, l'information circule encore moins bien.
Oui, puis les gens ne veulent pas se montrer. Et puis quand on est dans des zones reculées, on se déplace moins aussi. Donc on est moins visible. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se montrer, qui ont honte et qui ne veulent pas non plus mettre en évidence leurs difficultés.
Alors, pour informer les personnes des possibilités de recours aux politiques publiques, vous faites du porte-à-porte ?
C'est ça. Et c'est sur la base de notre directrice, la directrice de l'association, Claudine Pézeril, qui a eu l'idée de dire, pour compenser le manque d'informations et puis pour motiver des personnes qui pourraient ne pas aller vers les aides publiques, et bien justement, on s'est dit, on va aller vers ces personnes-là. Et donc, notre démarche, c'est de dire, on va recruter des personnes localement, quand il y a une politique publique qui s'applique dans un lieu. On va mobiliser des personnes qui vont être susceptibles d'avoir accès à la politique publique. On va pas prendre un élu, on va pas prendre une autorité morale, quelqu'un qui est très connu, très engagé dans des associations, parce que ce sont déjà des personnes qui ont une aura, une forme de pouvoir, en tout cas, qui sont un peu moins accessibles. On va essayer de recruter des personnes qui seront les équivalents, les pairs des gens susceptibles de bénéficier de la politique publique. On va les recruter quelques heures par mois, et puis on va miser sur leur qualité relationnelle, on va les former, et sur leur talent pour entrer en relation avec les personnes susceptibles de bénéficier de la politique publique.
À l'échelle du Maine-et-Loire, vous avez combien d'habitants relais ?
Alors aujourd'hui, ça varie, parce que ce sont des périodes de plusieurs mois, d'une année, 15 mois, ou un peu moins, mais aujourd'hui on est sur une quinzaine de personnes, on est vraiment sur leur territoire, ça dépend de la zone sur laquelle on intervient.
Parce que c'est un travail de fourmi que vous faites, là.
C'est de la fourmi, oui, c'est fourmi, mais ça marche très bien.
Vous êtes les seuls en France à réaliser cet intermédiaire ?
Au niveau rural, on est très peu nombreux. Il y a dans les milieux urbains, il y a une structure qui s'appelle les Voisins Malins, qui fait aussi dans des zones réduites, mais dans des quartiers qui marchent pas mal aussi, qui recrutent localement. Sur notre démarche, on est a priori les seuls.
Et vous empiétez sur la Bretagne maintenant ?
Alors oui, on a décidé d'aller plus loin. Non, on n'a pas une volonté hégémonique et de développer et de faire une énorme activité, sauf que ça fonctionne bien. Donc on intervient, parce qu'on nous a sollicité pour ça en Bretagne, suite aux différentes reconnaissances que nous avons eues et aux démarches aussi de mise en contact. Et on travaille en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre sur un territoire en Bretagne, et ça marche tout aussi bien que ça a marché dans le Maine-et-Loire.
C'est une vraiment belle mission que vous portez avec les locomoteurs. Le site, c'est locomoteur.fr. Merci François.
Merci beaucoup.
Dans le territoire de Belfort encore, Virginie nous soumet un mot sur une crèche parentale associative qui fête ses 30 ans cette année. Elle s'appelle Les Petits Petons, en référence au défi qui a précédé la création de cette crèche. Peut-on le faire ? D'autant que les crèches collectives ne manquaient pas à Belfort. Et le défi a été lancé par deux institutrices qui avaient des difficultés à trouver des modes de garde compatibles avec leurs horaires de travail. Cette association, lauréate du prix de l'économie sociale et solidaire de Bourgogne-Franche-Comté en 2018, inclut les parents dans le projet pédagogique de la crèche. Et dans son intendance, elle a su résister aussi aux tentatives de rachat par des entreprises privées. Le site, c'est lespetitspetons.fr.